Et il est 12h30 sur Principe Actif, l'heure de Radio Super Pouvoir, votre émission qui décortique le monde des comics et des super-héros. Alors installez-vous bien, bon appétit et bonne écoute. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Super Pouvoir, votre rendez-vous bimensuel sur l'actu des comics et des super-héros. Moi, c'est Guillaume et je suis ravi de retrouver à nouveau mon co-animateur Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous ceux qui nous suivent en podcast aussi.
Alors, depuis la 9e émission, on a décidé de très légèrement changer le format avec Cédric. C'est une formule un peu alternative qu'on teste avec vous et qu'on va suivre sur cette émission et sur la prochaine. Donc, au programme du jour, les actus et les sorties du moment. On enchaînera ensuite avec la critique de Kaline, sortie récente chez iComics et qui va servir de préambule au dossier du jour, à savoir les formats des comics actuels, précisément, mais pas que. Vous allez voir tout ça.
On va tout vous expliquer et vous allez voir, vous allez tout comprendre sur les formats des comics.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Et il y en a eu beaucoup, dont certains n'existent plus aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc si le concept vous plaît, n'oubliez pas de nous en faire part sur les réseaux sociaux de superpouvoir.com. N'hésitez pas à nous contacter, ça nous fait toujours plaisir. Alors on va lancer le petit jingle et on va passer à la partie actu et sortie. Donc, une nouvelle qu'on pourrait considérer comme un petit peu inquiétante, c'est les omnibus VO Marvel vs DC et The Amalgam Age. Donc, l'univers Amalgam dont on va vous reparler, je pense, à un moment.
Oui, en fait, car... l'univers Amalgam, c'est la fusion entre les super-héros DC et les super-héros Marvel. C'est-à-dire qu'on mélangeait, par exemple, Batman et Wolverine, et ça faisait Dark Claw, par exemple. Donc, c'est une série de comics qui reprend en fait la fusion entre les deux éditeurs principaux et qui sont coédités par les deux éditeurs, ce qui a été très difficile pour avoir des rééditions en fait, puisque ça date des années 90, je crois.
C'est bien ça, oui.
Et donc bah là, il y a des omnibus qui ressortent, c'est-à-dire des gros volumes qui vont reprendre l'entièreté de cette série Amalgam, et puis un autre omnibus qui va reprendre aussi l'entièreté, donc des crossovers, c'est-à-dire des rencontres, cette fois-ci entre les vrais personnages et pas les fusions. Et donc tu nous disais sur ces deux omnibus, il y a un petit souci ?
Ils ne bénéficieront que d'une seule impression. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront épuisés, ce sera fini. En VO, en tout cas, on n'a toujours aucune info sur la VF. Ça pourrait expliquer leur prix très élevé, on en parlait tous les deux, d'environ 150 euros. Avec la pagination qu'ils ont, même pour de la VO, c'est assez cher.
Ouais. Donc, le prix d'un omnibus est toujours autour d'une centaine d'euros. Bon, pour 1000-1200 pages, hein, ce qui n'est pas absolument phénoménal, hein, comme prix, une centaine d'euros pour 1200 pages, c'est, le ratio est plutôt honnête. Mais là, ça faisait très très cher et on commence à comprendre pourquoi, hein, du coup, s'il n'y a pas de réédition.
Oui, une fois qu'ils seront épuisés, ce sera apparemment fini, ils les réimprimeront pas ou alors pas avant plusieurs années. Donc,
alors après, ce qui est inquiétant aussi, c'est que vu que c'est une coédition entre Marvel et DC, est-ce qu'ils vont les ressortir ensuite sous un autre format avec plusieurs tomes dans le genre des recueils ou des choses comme ça à voir, mais je suis pas certain. Maintenant, reste à voir, hein, ce qui va se passer en France. Voilà.
On n'a aucune nouvelle, hein. Personne, Panini et Urban n'ont pas du tout communiqué là-dessus, donc on ne sait pas, on va bien voir ce qui va se passer. Ce serait peut-être bien si ça sortait quand même en France.
Ouais, peut-être que eux ne savent pas non plus, hein, en fait. Ça doit être là, dès que vous mettez en jeu des plusieurs éditeurs, forcément c'est compliqué, hein. Qui publie, est-ce que c'est Panini, est-ce que c'est Urban, voilà. À mon avis, ça demande beaucoup de travail, voilà.
Sachant qu'Urban ne fait pas d'omnibus. Donc, c'est plus la spécialité de Panini. C'est ce qui est bizarre. C'est édité par DC aux États-Unis, donc sous format omnibus. On pourrait se dire en France, ça va sortir chez Urban, sauf que Urban, oui, il ne faut pas d'omnibus, c'est le truc qu'ils ne veulent pas faire. Ouais. Comment ça ? On va bien voir. ensuite, on va dire du bien de Sean Murphy. Dans cette émission, qu'on aime bien quand il dessine, et justement, il a dessiné une très belle couverture pour un titre. Vous aurez deviné lequel c'est, Cédric, je pense que tu sais de quoi il s'agit, non ?
Ça doit être, c'est quoi, les Power Rangers, les Tortues Ninja ?
C'est les Tortues Ninja, exactement.
Évidemment, voilà.
Oui, oui, c'est un petit truc qui est fait pour la relance de Jason Aaron. Il y a plein d'artistes qui se sont mis à faire tout un tas de couvertures. Et celle de Sean Murphy est vraiment très bien. Alors, je vous en parlais, parce que j'aime bien les Tortues Ninja, puis...
Parce que
ça permettait d'évoquer quelque chose, c'est cette espèce... disons qu'on recommence un petit peu à voir ce qu'on a eu au début des années 90 avec les variants de cover où ça part vraiment dans tous les sens. Il y en a 50 000 qui sont faites. Et là, ce qui va se passer, c'est que cette variant de cover sera disponible dans les comics shops qui auront commandé aux distributeurs d'IDW au moins 500 exemplaires du premier numéro de cette relance. Ce qui fait que la couverture va être effectivement très rare. Ceux qui l'auront, ce seront les chanceux, et qui fréquentent des comic shops qui commandent vraiment beaucoup, beaucoup de numéros.
Ah. Donc. Moi, je trouve ça très, très inquiétant, cette course à l'échalote des variant covers, dans la mesure où, maintenant, chaque titre numéro 1, il contient peut-être 25 pages de bande dessinée, mais il est vendu sous 50 couvertures différentes. Ça avait quand même causé la faillite de Marvel hein, dans les années 90. J'ai l'impression qu'on y va tout droit.
Oui, c'est pour ça que je...
On en reparlera peut-être dans un dossier à la rentrée, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire sur, bah, sur la vente des comics. Voilà. Mais moi, ça m'inquiète toujours quand je vois 50 couvertures différentes pour un numéro. Je suis pas optimiste. Voilà.
Oui, pareil, c'est aussi pour ça que je plaçais ça là, parce que vraiment, on a l'impression de se retrouver presque 25 ans en arrière, où c'était vraiment devenu n'importe quoi. Et...
Mais je pense que... Enfin, on y reviendra peut-être plus tard, et puis là, on sort un petit peu du cadre de l'émission, mais pour moi, je pense que il va y avoir un effondrement des comics qui est inévitable, hein, c'est cyclique, c'est tous les 30 ans. Il y en a eu dans les années 70, il y en a eu dans les années 90... ce serait pas étonnant qu'avec la chute un petit peu de fréquentation des films et les super-héros commencent à passer de mode, qu'on n'arrive pas vers une banqueroute. Alors Marvel et DC, ça risque d'être compliqué puisque maintenant ils ont des grands groupes derrière. Mais il va se passer, je pense, une grosse crise dans les comics dans pas longtemps et on voit tous les prémices en fait.
Oui, bah je sais. Bon, on sort un petit peu, mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient évoqué le rachat par le groupe Time Warner, donc qui possède DC, de IDW.
Oui.
Ça avait été évoqué. Bon, ça s'est pas fait finalement, mais parce que chez IDW, ça va pas très bien. Heureusement qu'ils ont les Tortues Ninja, parce que le reste, c'est vraiment pas génial. Hein. Ouais. Donc, ils ont perdu les licences Hasbro, enfin... Ça, on le sait, mais...
Ouais, on verra bien. Et le côté nostalgique, que ce soit bon, des Tortues Ninja ou des Transformers, puisque là, il y a le nouvel univers Transformers qui est sorti, à mon avis, en dehors de l'effet de mode, ça va durer 5-6 mois et ça va retomber dans l'oubli, quoi. Hein. Donc, à voir ce qui nous reste. Mais bon, là, encore une fois, on verra bien.
Oui, on va laisser passer l'été et on verra ça à la rentrée.
Oui, on fera un petit dossier, je pense, à la rentrée sur les faillites des éditeurs de comics.
Alors, maintenant, on va passer aux sorties. Et de mon côté, c'est quand même morne pleine pour cette période de mi-juillet à fin juillet. C'est pas terrible, donc je crois que tu as des choses, par contre.
Ouais, un petit peu, mais c'est normal, hein. C'est normal, puisque en juillet, on va dire à partir du 10 juillet jusqu'au 20 août, il y a quasiment plus rien qui sort. C'est factuel, hein. Ça fait des années que les éditeurs savent qu'ils ne vendront pas de comics, voire même de bandes dessinées, hein. Il n'y a jamais de grosses sorties qui se font en plein mois d'août. Voilà. Alors moi, j'ai retenu quand même deux choses. Un omnibus, hein, l'omnibus Spider-Man par David Michelinie et Eric Larson, hein, qui pourrait intéresser pas mal de fans. Eric Larson, hein, je rappelle, hein, c'est le créateur de Savage Dragon, qui a été publié récemment en France, il me semble, je ne sais plus chez qui.
Oui, chez un très petit éditeur dont je n'ai plus du tout le nom en tête.
Voilà.
On va retrouver, je vais essayer de trouver Savage.
On va retrouver. Savage Dragon, hein, qui existe depuis maintenant presque 30 ans. Et en fait, avant de lancer sa propre série, donc Savage Dragon, Eric Larson, ça a été le dessinateur phare de Spider-Man, hein, puisqu'il avait remplacé Todd McFarlane. Son style est hyper dynamique, et vraiment, en fait, les gens qui ont apprécié le Spider-Man de Todd McFarlane ne peuvent qu'apprécier le Spider-Man de Eric Larson, hein, qui, je trouve, a un style beaucoup plus comics. Et c'est toujours intéressant d'avoir l'intégralité de cette arche narrative au sein d'un même volume. Alors, un gros volume, hein, puisque c'est un omnibus de 1000 pages, mais qui coûte très cher, hein, qui coûte une centaine d'euros. Mais ça permettra aux fans d'avoir des épisodes qui, en plus, ont été très très peu réédités en France. Voilà.
Savage Dragon, c'est chez les éditions Black and White en VF.
Voilà, les éditions Black and White, alors qui ont commencé à publier la... qui ont commencé à publier la série, pas à partir du numéro 1, parce que ça date un petit peu, mais je crois sur des épisodes qui datent d'il y a 5-6 ans. J'ai trouvé aussi le tome 2 de Hitman. Hein. Alors Hitman, je crois que toi tu l'avais lu, hein, il me semble, le premier tome.
Oui.
Et que tu avais bien aimé.
J'avais adoré même.
Ouais. Alors Hitman, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Garth Ennis hein, qui scénarise cette série. Garth Ennis, c'est le créateur de The Boys, par exemple, que tout le monde connaît maintenant grâce à la série télé. Garth Ennis, il a une écriture plutôt outrancière, et il est plutôt connu pour ça. Dans Hitman, il arrive à donner beaucoup d'émotions et finalement beaucoup de fond à ses personnages. Et là, ça va éclater dans le tome 2, où vous allez avoir des rencontres entre Hitman et Superman. Donc ça reste un petit peu provoque, ça reste dans un côté un peu déjanté, mais il y a quand même à un moment de gros moments d'émotion. Et vraiment, je trouve que le tome 2 sera supérieur au tome 1 en termes d'histoire. Donc je pense que, hein, Guillaume, si tu avais aimé déjà le tome 1, tu vas te régaler avec ce tome 2. Et moi, je conseille vraiment à tout le monde d'acheter les deux tomes de Hitman, qui sont une très 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 bonne série.
Ah oui, moi je vais me le prendre. Le tome 1 était tellement bon, enfin, il n'y a pas de raison de ne pas prendre le tome 2.
Je trouve que ça prend une profondeur une fois qu'il a... Dans le tome 1, il a mis en place ses personnages, son univers, son style. Dans le tome 2, il commence vraiment à envoyer du lourd. Et on en reparlera certainement à la rentrée aussi.
Ah oui, ça... on vous fera peut-être une émission sur les immanquables de l'été, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai regardé là sur Savage Dragon l'arc du moment sur lequel travaille Eric Larsen, c'est avec Mickey Mouse, parce que comme vous le savez, Mickey est désormais dans le domaine public. Et donc, dans Savage Dragon, Mickey est un gros pervers qui essaie qui essaye d'agresser la femme de Savage Dragon.
Voilà alors Savage Dragon, en fait, c'est Eric spécial, Larson, hein, il a le personnage depuis 30 ans, hein, c'est lui qui préside à sa destinée. C'était parti comme une sorte d'incroyable Hulk, hein, Et puis, on va dire une dizaine d'années, Eric Larson est parti dans des fantasmes sexuels très très bizarres, qui se retranscrivent dans cette série. On aime ou on n'aime pas, hein. Perso, moi, ça m'a fait arrêter la série, hein. Parce que voir les fantasmes sexuels d'un vieux monsieur, ça m'intéresse moyen. Mais on peut pas lui reprocher, en tout cas, de vouloir tenter à chaque fois de mettre sa série en avant et de proposer des choses toujours très originales. Voilà, donc Savage Dragon, jetez-y un coup d'œil. En plus, c'est réédité en français là. Après, sur la longue, je suis pas certain que ça fonctionne.
Ah non, il y a des trucs, c'est spécial. Hein. Faut apprécier ce genre d'humour douteux, on va dire.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Ok, on envoie le petit jingle, on va passer à la critique. Donc, on va vous parler de Kali, qui est récemment sorti chez iComics. Kali, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de longue date du scénariste Daniel Friedman, que vous connaissez peut-être, étant donné qu'il commence à avoir un petit peu de prestige en ce moment avec plusieurs publications, je vais vous en reparler. Et donc, on apprend dans les bonus, parce que c'est bien, il y a des bonus. C'est bien chez Dark Horse, parce qu'ils font des bonus dans leurs éditions, et les éditeurs français les reprennent, et je prouve que c'est une très bonne chose. Et donc, c'est un projet qu'il porte depuis environ 10 ans. Donc, le concept, il est assez simple, c'est de nous proposer un récit de vengeance avec le seul point de vue unique de Kali, donc son anti-héroïne. Et tout ça se déroule dans un univers post-apocalyptique dont on ne comprend pas grand-chose. Hein. C'est un petit peu bizarre, on sait pas trop ce qui s'y passe. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire comme ça, c'est une des forces du récit parce que ça laisse se dégager un univers beaucoup plus vaste. Donc Daniel Friedman, qu'est-ce qu'il a... Il est connu pour quoi ? Donc pour Raiders et Bird King. Bird King qui vient d'ailleurs de sortir, il est sorti quasiment en même temps que Kali. Sur ces deux-là, il bossait avec l'artiste britannique Chrome. Alors le style de Chrome, il ressemble un petit peu à du Mike Mignola, on va dire. Pour résumer tout ça, c'est pas mal. J'ai lu Bird King et je l'ai préféré à Kali, clairement. Kali, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé Bird King bien meilleur. C'est différent après. Sur Kali, Daniel Friedman, il est accompagné de Robert Samlin. Donc, les fans de jeux vidéo et notamment ceux de DICE, le studio derrière les Battlefield, ils connaîtront peut-être son nom, parce que c'était l'un des grands illustrateurs de la société. Il a aussi fait pas mal de pin-up et de choses comme ça, il réalise des affiches de cinéma, des couvertures pour les DVD, enfin des Blu-ray, pardon. Bref, il fait plein de choses, c'est quand même un illustrateur qui a sa réputation. Il avait aussi réalisé des affiches pour Mad Max Fury Road et pour Logan, donc c'est des récits qui sont assez similaires à l'histoire de Kali, donc on comprend un petit peu pourquoi Daniel Friedman est allé le chercher, parce que l'inspiration, elle est là. D'ailleurs, c'est une bonne idée de la part de iComics de sortir Kali en même temps que la sortie au cinéma de Mad Max Furiosa. Je crois que tu l'as vu, Cédric, non ?
Mad Max Furiosa, oui. Bon, moi, j'ai été très déçu. Hein. J'ai trouvé que c'était un film qui était très, très plat et qui ressemblait pas du tout à ce qu'on avait pu voir dans Mad Max Fury Road. Voilà. Hein. Donc, non, j'ai été assez déçu de Furiosa. Bon, revenons à Kali. Hein.
Oui, c'est... Disons qu'il y a un point commun entre les deux. C'est du post-apo, tout ça, avec des motos, des voitures. Bref. Et c'est le moment de faire une pause musicale. Aujourd'hui, on va écouter Wasteland par The Mission, sorti en 1987. On se retrouve juste après pour continuer à parler de Kali. A tout de suite.
Stealing the gun over this land.
J'ai pu lire un petit peu sur Internet et entendre aussi que la trame de Khalid n'était qu'un prétexte. Alors, effectivement, c'est le cas, mais je trouve pas que ça fasse trop défaut au récit en réalité. On a un univers qui reste assez mystérieux, on ne sait pas comment la fin du monde a eu lieu, par exemple. On ne sait pas d'où a émergé cette organisation paramilitaire qui sert d'antagoniste à Khalid. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, ça pourra peut-être être exploré dans d'autres tomes, pourquoi pas, à voir si Daniel Friedman y décide de continuer. Et il disait de toute façon dans les bonus que son objectif c'était bien de garder son point de vue sur Khalid du début à la fin. Parce qu'il y avait une autre introduction qui existait, mais ce n'était pas dans le point de vue du personnage. Donc c'est quelque chose qu'ils ont décidé avec Sam Lean de supprimer, et on comprend pourquoi, parce que ça reste très ramassé, hein. Ça va vraiment du début à la fin, sans temps mort, hein. On s'ennuie pas, moi je trouve qu'on s'ennuie pas en lisant Khalid. Par contre, effectivement, l'intrigue va très vite, et pour moi, il faut le lire d'une traite, hein. Ça, c'est pas très adapté aux prose, hein. Moi, je l'ai lu en une soirée, ça m'a pris quoi, 45 minutes, 1 heure à peu près, mais c'est comme un film. C'est presque comme un film, hein. Ça se lit d'une traite, et c'est chouette. On s'ennuie pas. Clairement, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, faut pas exagérer non plus, mais franchement, c'est un excellent divertissement. Et les références de Friedman et Sam Lean, elles sont plutôt intéressantes, hein. Bon, comme vous vous en doutez, on est sur du post-apo, donc il y a de la référence au western. Le final, on est un peu dans la Horde sauvage ou Extrême Préjudice, donc pour vous vendre le truc, vous voyez un petit peu dans quel délire ça va partir, ça va péter de partout. Donc, comme je vous le disais, c'est très différent de Burnt King, par exemple, où Burnt King, c'est beaucoup plus lent. On est sur quelque chose, on va dire, où il prend plus le temps de créer son univers, alors que sur Khalid, ça va très vite. Il montre en tout cas Friedman qui maîtrise différents types de récits et qu'il arrive aussi à maîtriser différents types de narration. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs des idées, hein. Il y a de très bonnes idées. Il y a notamment un moment où Khalid, elle est prise en charge par une espèce de commando qui ressemble un petit peu au commando de... Comment il s'appelait ce jeu vidéo de Kojima, là, déjà, avec Get the Walking Dead. Bref, vous saurez mieux que moi. Moi, j'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo, et je crois que tu joues pas aux jeux vidéo, Cédric.
Du tout, hein. Voilà.
Voilà. Ok, bref. Voilà, les types ressemblent un peu à ça, et c'est marrant parce qu'il y a un assaut, ils mènent un assaut sur Khalid qui est retranché dans une tranchée. Et il y a un jeu visuel qui est assez intéressant, je vous laisse découvrir ça, mais il y a tout un tas d'idées comme ça qui sont pas mal. Il y a aussi une poursuite en train à un moment, enfin, c'est pétaradant, c'est ça qui est bien. C'est pétaradant, et surtout, c'est pas ennuyeux. Côté édition, donc, ça vous coûtera 24,95€, et ça fait 176 pages. 176 pages, sachant qu'il y a les bonus, je le rappelle. Et si on a décidé de vous présenter ce comics en particulier, c'est aussi parce que, d'un, c'est la seconde sortie comics de l'année chez iComics, ils sortent très peu de comics maintenant. Bon, l'année prochaine, si vous avez écouté l'interview que j'ai faite avec Sullivan Rowe, ça va être différent, mais cette année, il y a vraiment pas beaucoup de sorties. Et aussi parce que ça sort dans la collection iGraphics. Alors, contrairement à ce que j'ai pu entendre, iComics n'a pas changé de nom. iGraphics, c'est une collection qui est destinée à faire sortir les comics des rayons comics de librairie. Alors, ça peut surprendre, je sais, mais c'est une stratégie qu'ils ont mis en place. On va parler un petit peu de tout ça, j'envoie le jingle et on poursuit juste après avec Cédric. Alors, on va commencer la partie dossier de cette émission, justement sur les formats des comics. Donc, pour bien comprendre tout ça, il faut retourner en arrière lors de la création des comics, justement. Il y a déjà à peu près 100 ans maintenant, un peu moins. Et leur format de base aux États-Unis, ce qui est très différent du format français, hein. Le format comics américain, par exemple, en France, on ne l'a pas. Donc, tu vas nous en dire un peu plus, Cédric.
Oui, et c'est vrai, parce que en fait, nous, on parle de comics depuis maintenant quasiment un an et depuis le début de la saison radio, mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas, en fait, ce que c'est, à la base, un comics, et surtout son format, hein, c'est-à-dire sa taille. Et ben donc, oui, on va devoir repartir à peu près 100 ans en arrière, hein, au début des années 30, hein, où, à l'époque, la seule bande dessinée qui existait, c'était ce qu'on appelait les comic strips, c'est-à-dire, vous savez, ces bandes de dessinées, hein, c'est de là que vient le nom, hein, de 3 ou 4 cases, bah, qui s'étalaient dans les journaux de l'époque, voilà. Donc, on pense à Pim Pam Poum, à Prince Valiant, à Tarzan, hein, à Buck Rogers, qui proposait des histoires qui étaient très courtes à suivre, donc de semaine en semaine, dans les grands journaux de l'époque, hein, voilà. et on appelait ça dans les suppléments du dimanche. C'est-à-dire que il y avait une double page qui sortait tous les dimanches dans tous ces journaux, qui contenait 4, 5, 6, 7, 8 histoires, 8 strips, donc différents, qui étaient des histoires à suivre d'une semaine sur l'autre. Il faut savoir hein, que les strips, à l'époque, c'était le seul moyen pour des artistes de bande dessinée d'être reconnus et de gagner de l'argent, car bah, rien d'autre n'existait. Hein, voilà. On pouvait trouver hein, dans les kiosques à journaux des compilations hein, de tous ces récits, mais les droits de publication étaient très très chers. Tant et si bien hein, qu'on a commencé à un moment à faire réaliser des productions inédites à de très jeunes auteurs, hein, qu'on a commencé à payer au lance-pierre, en leur faisant miroiter que si leur récit marchait bien en kiosque, ils seraient remarqués par un syndicat de bande dessinée et qu'ils pourraient réaliser des strips pour les journaux. C'était le rêve hein, de tous les gens qui ont commencé, que ce soit Stan Lee, Kirby, etc. Tous, eux, quand ils ont commencé, leur rêve, c'était vraiment d'être publié dans des strips et d'avoir une licence qui marche dans les journaux. Alors, toutes ces publications, hein, donc, elles étaient au format tabloïd. Alors, le format tabloïd, je crois que ça n'existe même plus en France. C'était vraiment du journaux qui était... vous les étaliez et ça prenait la largeur de la table, en fait. Hein, voilà. Moi, je me rappelle de l'équipe, par exemple, mais il y a peut-être 20 ans, 15 ans, qui était sous ces formats-là. Maintenant, ça n'existe plus pour des économies de papier, hein, on comprend bien. Mais en gros, si vous prenez n'importe quel quotidien actuel, il faut limite doubler la surface pour avoir une idée de ce que c'était que ce format-là tabloïd. Donc, c'est un très, très grand journal. Et tout était publié en kiosque sous ce format. Et puis, c'est en 1933 hein, que Charlie Gaines, hein, qui travaillait donc pour une compagnie qui s'appelait Eastern Color Publishing, qui produisait hein, plusieurs suppléments du dimanche, cette compagnie, des encarts publicitaires. Bah, Charlie Gaines, lui, il a une idée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 30, vous avez une crise énorme hein, qui frappe les États-Unis et le monde entier. Hein. Et donc, bah, là, il faut faire des économies partout. C'est en dépliant un journal, hein, sorti à peine de la rotative, que ce Charlie Gaines, il a une révélation, parce que bah, s'il le plie trois fois dans le sens de la longueur, s'il prend une double page de journal, pardon, et qu'il le plie trois fois dans le sens de la longueur, bah, on obtient en fait 16 pages, si on massicote bien un côté, c'est-à-dire si on coupe un côté, et donc il y a un cahier de 16 pages au format réduit. Il suffit ensuite d'en mettre deux pour avoir, et de l'agrafer pour avoir 32 pages, alors que ça aurait coûté 4 pages, en fait, dans un journal traditionnel. Donc, ça permettait donc de réduire le coût du papier avec une agrafe, hein, comme ça, voilà. Et on arrive à un format donc qui est un petit peu plus petit qu'un format A4 standard. C'est-à-dire qu'il prend sa feuille de journal, il la plie, voilà, et on arrive à un format qui est un tout petit peu plus petit qu'un format A4, bah pour un prix défiant toute concurrence, hein, parce que de fait, il y a beaucoup moins de papier utilisé. Donc l'idée, hein, elle semble révolutionnaire, hein, et elle va offrir bah, de nombreuses possibilités aussi, notamment en termes de production. Bon, les gains de papier, ça c'est évident, mais aussi de distribution, parce que les magazines sont quand même trois fois moins grands. Donc on peut en mettre plus, et c'est plus facile à mettre dans les étals, mais personne n'y croit. Parce que bah, tout le monde se dit qu'un format petit pour l'époque, ça passera pas. Mais Gaines, lui, il est persuadé en plus que ça peut toucher un public très différent, notamment celui des enfants, parce que ce qui est terrible, c'est qu'avec ces grands journaux qui s'étalent sur les pages, bah, les enfants, ils ont pas les bras assez grands pour l'ouvrir et pour tenir les pages. Et lui, il se dit que, bah, avec un format presque 4 fois plus petit, bah, les enfants pourront le lire tout seuls. Donc, au début, ça a été vendu comme des offres promotionnelles dans des bouteilles de lait ou quand on achetait de l'essence. Et donc, c'est ce format-là hein, qui est le format comics de base, hein, à savoir une publication en papier de 32 pages dans un format un petit peu plus petit qu'une feuille A4, surtout dans la hauteur, avec une couverture très souple en papier aussi. Alors, distribué aux clients en magasin ou bien envoyé à domicile en échange de coupons publicitaires, ces petites revues, elles commencent à connaître un large succès. Et le premier comics hein, de format classique comme ça, il s'appelle Funnies on Parade. C'était des histoires drôles avec des animaux qui parlent, voilà. Et Gaines, lui, il va aller voir les différentes maisons d'édition et il dit « Regardez ce format-là, moi je suis sûr que vous allez pouvoir faire un succès. » Le problème, c'est que les maisons d'édition, elles en veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben Gaines, alors c'est selon la légende, hein, de toute façon, on pourra jamais savoir le vrai du faux. Mais la légende dit que Gaines, il prend Bah, il prend des reliquats de comics publicitaires, il colle dessus des autocollants de 10 cents et il va en déposer dans les kiosques à journaux voisins. Et puis, il constate quelques jours plus tard que bah, une grande partie du stock a été vendue. Donc, ça veut dire qu'il a la preuve concrète hein, du fonctionnement de ce nouveau format. Ce nouveau format, il marche. Et il va donc convaincre à la direction donc d'Eastern Color Publishing, là où il travaille, de produire en 1932 ce qu'on peut considérer comme la toute première publication payante, cette fois-ci, au format comics, hein, qui est Famous Funnies. Tiré à 150 000 exemplaires pour son premier numéro, je rappelle que c'est plus que le numéro 1 de Batman qui marche en ce moment. Hein, voilà. Donc Famous Funnies, il va pas rapporter d'argent, mais il va assurer un taux de vente de 90%, ce qui est énorme, et ce qui va être largement suffisant pour prolonger l'aventure. Et puis, afin de mettre toutes les chances de son côté, bah, ce magazine va proposer des strips en couleur, qui étaient très populaires à l'époque, comme Buck Rogers. Et donc, bah, Famous Funnies, il a aussi sur sa couverture un élément qui le distingue des autres publications et qui reste toujours la norme, même 100 ans après, la post-datation de la date de sortie. C'est-à-dire qu'un comics qui sort dans les kiosques en mars sera daté de juillet ou août. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est pour des histoires de stock. Mais ça, on en reparlera peut-être un autre jour. Et puis, bah, ce format prend. Et en dehors de ce format, il n'y aura rien pendant des décennies. C'est-à-dire que tous les comics qui vont arriver, que ce soit Superman, Batman, Flash, Green Lantern, vont être dans ce format, c'est-à-dire 32 pages, avec environ 25 pages de BD et le reste, c'est de la pub. Format papier, couverture souple, c'est-à-dire même en papier, hein, un petit peu plus glacé. Et il faudra attendre 1954, hein, donc là, presque 20 ans plus tard, pour qu'on puisse trouver une compilation de plusieurs comics dans les kiosques. Hein. C'est ce qu'on appelle généralement un trade paperback ou un TPB hein, en abrégé. Donc c'est un volume d'environ 150 pages qui recueille en général 5 ou 6 numéros de comics différents et qui souvent forment une histoire complexe. C'est encore un format qui est utilisé maintenant et c'est le format. Hein, alors le
recueil. Oui, en France, c'est ce qu'on considère comme le format comics. C'est ce qu'on voilà. a, c'est pour nous le comics, c'est ça, c'est le trade paperback avec plein de numéros qu'on appelle nous chapitres du coup. Parce voilà. que le lecteur ne sait pas forcément que ces chapitres, c'est un numéro qui est publié bah, sur 6 mois. S'il y a 6 numéros, c'est voilà. 6 mois de publication.
Aux États-Unis, en fait, voilà, ce que vous lisez, ce ne sont que des compilations de comics en France. Hein, voilà. Alors, c'était quoi ce premier TPB ? Eh ben, ce premier TPB, c'était une compilation d'épisodes du magazine Mad, qui était un magazine satirique plutôt destiné aux adultes. Ce qui est compréhensible, puisque le prix étant beaucoup plus cher, ça s'adressait plus vraiment aux enfants qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Marvel et DC, hein, ils vont s'y lancer, mais uniquement dans les années 70. Hein. C'est-à-dire que bah, tout ce qui a été publié avant les années 70 n'avait, avant 70, jamais été publié sous forme de recueil. Dans les années 70, c'est plutôt des compilations d'histoires autour d'un thème. Les grandes batailles de Marvel, les origines des super-héros, les origines des super-vilains. Et il faudra attendre 1984 hein, pour qu'on publie des arches narratives récentes. Et t'as une idée de ce que ça peut être, Guillaume ?
C'est quelque chose qui a à voir avec les X-Men, je crois. Un arc très connu.
Oui, en 84, les X-Men fonctionnent, bah, c'est la série qui marche. Et donc, un des premiers recueils, hein, c'est... ben, le trade paperback qui reprend tous les épisodes de la saga du Phénix Noir, hein, qui est une des sagas les plus importantes des X-Men, hein, puisque c'est la mort de Jean Grey, hein, voilà. Et puis, ben, ça va être suivi 2 ans plus tard par DC Comics, qui va sortir donc des compilations de 2 titres qui ont explosé là aussi, Dark Knight Returns hein, de Frank Miller, et puis Watchmen d'Alan Moore.
Oui,
et
d'ailleurs, Watchmen, beaucoup de gens croient que c'est un roman graphique. Non, ce sont des comics. Watchmen, ce
voilà,
sont des comics.
Voilà, ça a été publié à l'origine dans 12 numéros. Hein, voilà. Et par contre, le recueil a explosé toutes les ventes. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a causé la scission entre Alan Moore et DC Comics. Hein, puisque Alan Moore devait récupérer les droits de Watchmen contractuellement une fois que DC arrêterait de publier la série en recueil, sauf qu'elle n'a jamais arrêté de la publier depuis 40 ans. Donc voilà.
Urban l'a sorti en Nomads d'ailleurs, en tout petit format.
Ouais. Donc vous imaginez, hein, quand vous avez un format, donc un recueil qui est lancé par les X-Men, Dark Knight, Watchmen, bah, ça commence à prendre. Et puis, bah, il va arriver ce qu'on appelle donc le hardcover. Alors, qu'est-ce que c'est que le hardcover ? C'est un TPB, hein, pour ceux qui suivent, donc un recueil qui avait une couverture souple, mais là, on lui met une couverture cartonnée. Donc là, nous, on est typiquement dans ce qui est publié en France en ce moment. à savoir des compilations de 5-6 numéros avec une couverture cartonnée.
Qui coûte très cher, d'ailleurs.
Qui coûte très cher, voilà. Et donc, de fait, ben, c'est parce qu'en France, on a l'habitude hein, des couvertures cartonnées. Disons que les hardcovers sont pas... L'ordre de publication, c'est d'abord ben, le numéro, hein, ce qu'on appelle le single, c'est-à-dire le petit numéro de 30 pages. La compilation en hardcover qui est très chère, mais qui sort avant. Et puis, 6 mois plus tard, vous avez la compilation donc en TPB, qui coûte moins cher, qui est en couverture souple. Voilà, en gros, le schéma de publication aux États-Unis. En France, non. En France, on va publier directement la série en format cartonné, hein, que ce soit maintenant chez Urban ou chez Panini. Hein, voilà. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, on était plus dans un format TPB, puisque les couvertures étaient souples. Je pense notamment au 100% Marvel.
Ouais, et qui avait... coûtait 12 euros.
Et qui... Oui, voilà. Ouais, voilà.
C'est lointain.
Ça coûte plus cher. Voilà. Et puis, ben, on débarquait au milieu des années 2000, hein, un gros format, voilà, qui est une compilation de TPB ou de hardcover, c'est-à-dire globalement des gros volumes de 30 ou 50 épisodes d'une série qui font plus de 1000 pages, qui coûtent très cher et dont on n'arrête pas de vous parler dans cette émission.
Ben, des bottins. Voilà, ce sont des bottins qui servent aux policiers à taper les gens. Voilà,
des trucs qui pèsent 5 ou 6 kilos, qu'on peut pas lire aux toilettes, mais qui contiennent bah, l'intégralité d'une série ou d'une arche narrative. Et donc, ce sont les fameux omnibus, voilà. Et bah, le premier chez Marvel, c'est l'omnibus Fantastic Four. Hein. C'est au début des années 2000, hein, et ça reprend bah, les premiers épisodes de Stan Lee et Jack Kirby. Et puis, chez DC, le premier omnibus, c'est La mort de Superman, voilà, qui a été édité un petit peu plus tard, je crois, en 2005, et qui reprend des épisodes des années, je crois, 90, voilà.
D'ailleurs, petit truc, lisez La mort de Superman plutôt que de voir le film de Zack Snyder, Batman versus Superman, hein, c'est non, bien meilleur.
Zack Snyder voilà. N'existe pas, voilà. Et La mort de Superman, c'est plutôt sympa, quand on aime les comics un peu rétro, c'est vraiment intéressant. Et puis, ben, après, il y a plein d'autres types de formats, on va pas se mentir, mais la base est là. C'est-à-dire le petit single format un peu en dessous d'une page A4 de 32 pages, les compilations format dur qu'on appelle des hardcovers, un petit peu après la compilation en format souple qu'on appelle le TPB, et puis bah, derrière, la publication, alors ça c'est que pour certaines séries, en omnibus, pour des gros runs bien établis. Et voilà les formats qui existent aux États-Unis. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'en France, quand ça a été adapté, ça n'a pas du tout été ça. Parce que en France, hein, quand ça a commencé à sortir, alors je pense que les plus vieux d'entre nous se rappelleront de Marvel, du magazine Marvel ou du magazine Strange, hein, qui était publié par les éditions Lug, eh ben, c'était à la base des tout petits fascicules, c'est-à-dire c'était des formats poche en noir et blanc ou alors avec simplement une ou deux couleurs. Donc ça voulait dire qu'il fallait retravailler toutes les cases. Et donc il y avait vraiment un travail d'adaptation du format comics au format poche avec bah, des suppressions de cases, des suppressions de pas entiers de l'histoire.
Pour que il y avait de la censure aussi, je crois, non ?
Beaucoup de censure parce que c'était des publications pour enfants. Donc voilà, après le format Strange a évolué et est arrivé un petit peu à un format comics. Il n'y a que le magazine Nova qui restait en format poche pendant très très longtemps. Je crois qu'il a pris un format entre guillemets comics autour des années 2000, juste un peu avant la fin de Lug Samic, hein, avant que ce soit repris par Panini. Et donc tout Marvel a été publié, il a fallu attendre, je pense vraiment, allez on va dire le début des années 2000, pour que toutes les revues françaises de comics soient en format comics, voilà. Chez DC, c'était encore plus terrible parce que là, c'était vraiment des formats de poche et il y avait Aredi, Artima qui ont commencé à publier des fascicules en couleur, beaucoup à la fin des années 80, début des années 90. Mais après, ils ont perdu la licence DC et on rappelle que DC n'a pas été publié pendant près de 15 ans hein, en France, en dehors des librairies. Puisque, en fait, c'est en pleine Batmania, le film Batman 1, donc là, je crois qu'on est en 92, 93, quelque chose comme ça, peut-être 90, je sais plus.
Premier film, c'était quoi, 89, 90, je crois.
Ouais, 89, 90, bah, c'est en pleine Batmania qu'on commence à voir arriver des comics, non plus chez les marchands de journaux, mais dans les librairies. Donc, avec un format, on va dire, à la française, et avec bah, une couverture dure, hein, cette fois-ci, voilà. Et c'est, moi je me rappelle, hein, les éditions Comics USA hein, qui ont commencé à publier du Watchmen, du Dark Knight. Donc on a commencé à trouver donc, des comics dans les librairies uniquement à partir bah, du début des années 90.
Puis DC, ça a été compliqué quand même à publier en France dans les années. Je crois que Panini en publiait un peu. Après, ça a été Delcourt. Il a vraiment fallu attendre qu'Urban soit créé pour qu'il y ait une logique de
Ouais,
publication de l'univers DC.
y a eu un trou d'ici entre la fin d'Aredit, donc qui doit dater de 85, 86, 87, je pense, et le début des années 2000, hein, où Semic a essayé de publier un peu de DC, ça n'a pas marché, Panini a repris pas mal, puis Urban est arrivé, voilà. Ce qui fait qu'il y a encore pas mal de trous à combler, hein, d'ailleurs. Donc le tournant, hein, kiosque-librairie, il est survenu progressivement, mais il est désormais quasiment exclusif depuis 10 ans. Hein. Je veux dire, tous les titres kiosques se sont tous arrêtés les uns après les autres, et on a commencé maintenant à publier les séries en librairie exclusivement depuis à peu près, oui, je pense, une dizaine d'années. Ce qui fait que, de toute façon, les marchands de journaux, ça n'existe quasiment plus. Hein. Les relais presse,
Non, ça,
malheureusement,
je
disparaissent.
crois que j'ai pas vu un kiosque depuis.
Ouais, faut aller dans
Ouais.
les gares, en fait, voilà. Mais c'est vrai qu'on est arrivé sur du format librairie, donc qui est beaucoup plus cher, qui est le format hardcover, hein, c'est-à-dire des compilations de 5-6 épisodes avec une couverture dure qui est entre, je sais pas, 20 euros à peu près,
Oui,
je
ça ne
pense.
fait qu'augmenter maintenant. Le prix moyen, c'est plus 22 euros, en fait, hein, car.
Voilà, pour 5-6 épisodes. On a aussi beaucoup d'omnibus chez Panini, de gros recueils de 500-600 pages chez Urban, qui sont dans des formats comics. Mais il y a aussi d'autres formats à la mode, et je pense que c'est toi qui vas nous en parler un petit peu, Guillaume, les formats français un peu à la mode en ce moment.
Oui, exactement, parce que depuis quelque temps, il y a quand même trois grands formats qui ont émergé chez les éditeurs français. Alors c'est marrant parce que les formats poche, les Américains commencent à s'y mettre aussi. Alors c'est marrant, les Français ont été précurseurs. On a depuis, c'est un an et demi, je crois, le Urban Nomad s'est sorti il y a un an et
Ben,
demi.
je sais plus.
Donc ce sont les formats poche. Donc Urban avec les Urban Nomads et Panini avec les Marvel poche cette année qui viennent tout juste de sortir. C'est
C'est
devenu.
vraiment des formats très
Oui.
petits, souvent très épais, en couleur, papier glacé,
Pas
et qui
chez.
coûtent entre 5 et 10 euros, je crois, hein, le volume. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est pas du papier glacé, par contre. Ça
D'accord.
ressemble au papier des. Comment elle s'appelait cette collection? Des Marvel Icons, je sais pas si tu t'en souviens. Il y
Non, pas.
a.
D'accord, c'est pas du papier glacé,
Non,
d'accord.
c'est pas du papier de grande qualité, mais c'est pas mauvais non plus. Par contre,
D'accord, et
ouais, ça sent très mauvais.
c'est des formats à 5-10 euros, et c'est ce qu'ils
C'est
vendent le
ça.
plus en ce moment, en fait.
Ouais. Bah, le
Alors,
prix fait que.
le prix fait que les gens se ruent dessus. Le désavantage, hein, de ce format, c'est que ce sont des histoires qui ont déjà été éditées, rééditées, rééditées des dizaines de fois. Mais ce qu'on peut comprendre, hein, parce qu'avec un format comme ça, il faut avoir déjà rentabilisé les traductions, etc., etc. Mais c'est ce qui se vend le plus. Voilà.
Bah ça, en plus ça titille un petit peu les lecteurs de manga vu le format que c'est. Par exemple, oui, tu disais c'est des récits réédités. Sur les Marvel Poche, on a par exemple eu Ultimate Spider-Man. On
C'est
l'a
parfait
eu,
pour les nouveaux
ouais.
lecteurs. Hein.
Mais du coup, oui, on l'a eu en kiosque. On l'avait eu en 100% aussi, je crois. Il a été édité en Deluxe, en Omnibus, puis là, il arrive dans ce format. Donc oui, après ça marche. En plus, c'est pas mauvais, donc c'est une bonne
Non.
chose.
Donc des formats à petit
Oui.
prix, mais sans trucs inédits, en fait, des trucs qui
Voilà.
ont déjà été réédités. Moi, par exemple, j'ai jamais acheté un format poche de ma vie, puisque toutes ces histoires-là, je les ai déjà dans différentes collections. Et puis on a les intégrales après, je
Oui,
crois.
on a les intégrales donc, qui ont amené pas mal de succès, surtout chez les indépendants. Donc, comme Delcourt avec Invincible, les intégrales Invincible, on sait qu'elles fonctionnent. En plus, il y a la série sur Amazon, donc ça aide. iComics avec les Tortues Ninja, donc les Tortues Ninja ont redécollé en France grâce à ces intégrales, alors que ça marchait plus du tout via le format TPB classique. Donc l'avantage des intégrales, c'est qu'on compile une série dans un format qui est certes plus grand, enfin plus grand, il y a une pagination qui est plus volumineuse, c'est plus économique du coup. Dans le cas des Tortues Ninja, on a tous les récits parallèles qui sont publiés dans les intégrales. Donc on peut vraiment suivre l'histoire du début à la fin sans aller acheter tout un tas de numéros tie-in et de trucs comme ça à côté. On prend le numéro 1, on va jusqu'à la fin, on a vraiment toute la série. C'est publié de manière chronologique. C'est très facile à suivre. On a un peu la même chose du côté de Marvel avec les Epic Collections dont on est
Oui,
fan tous les deux.
ou les intégrales Marvel, hein, qui marchent depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, qui sont donc des reprises chronologiques hein, de séries connues, hein, voire même moins connues, hein, maintenant, puisque ça marche. C'est le format qui marche chez Panini, hein. Alors qui n'est pas destiné du coup là aux nouveaux lecteurs, parce que c'est quand même 35 à 40 euros une intégrale, mais bah, ça, c'est pour les nostalgiques, hein, pour les gens qui ont lu du Strange, qui ont lu ce genre de choses, et qui ont les moyens de s'acheter une ou deux intégrales, enfin une intégrale par-ci par-là, une intégrale par mois, il faut quand même, c'est un budget, hein. Donc ça ne s'adresse pas au même type de lecteurs. Souvent, c'est des épisodes inédits aussi, enfin, ou tout du moins qui n'ont pas été republiés depuis les années Strange ou depuis 20 ou 30 ans. Et c'est vrai que c'est aussi les intégrales, c'est-à-dire qu'on a une douzaine d'épisodes, quinzaine d'épisodes des fois, voire plus hein, chez Urban, bah, qui permettent d'avoir l'intégralité d'une année, d'une histoire, d'une série. Et c'est plutôt orienté, on va dire, sur les lecteurs un petit peu plus vieux. En fait.
Oui, sachant qu'Urban, ils se mettent aussi pas mal aux intégrales. Hein, cet été, à la rentrée, il va y en avoir beaucoup.
On va en parler. Ouais. Va en parler ouais.
C'est le format à la mode en ce moment, j'ai l'impression. Il y a les petits formats et les intégrales, c'est ça qui est mis en avant.
C'est toujours avantageux. C'est que quand vous avez une série qui va faire 60 épisodes, si vous l'achetez en 100% Marvel, vous allez avoir 12 épisodes cartonnés, 12 numéros cartonnés à 20 euros. Une intégrale, vous pouvez avoir 3 ou 4 intégrales à 30 euros et le bénéficier. En revanche, il faudra attendre un petit peu. Quoi. Voilà.
Puis, à l'instar de Kali, on a donc les formats type roman graphique. Chez Panini, par exemple, on a les formats Prestige. Ils vont sortir un très bon titre, d'ailleurs, dont on va vous reparler un peu plus tard, de Barry Windsor-Smith, dans ce format-là. Mais ce sont vraiment des formats avec une très grande taille, avec une qualité de papier assez bonne, et donc le but, c'est de faire sortir les comics du rayon comics, donc un peu...
Ce qui est le principe, ouais. Hein, puisque les rayons comics se réduisent comme peau de chagrin ouais. Partout.
Il y en a plus.
Si on arrive à faire passer les comics comme des romans graphiques, alors tu le disais au début, hein, en fait, c'est des compilations de numéros de comics, mais on appelle ça roman graphique. Voilà, hein, ça permettra peut-être d'augmenter le nombre de lecteurs. Hein, voilà. Donc finalement, si on peut résumer, il y a quoi ? Il y a deux grandes tendances qui se dégagent.
Oui, c'est bien ça. Oui, donc il y a la première qui consiste à proposer des petits formats à petit prix. Donc Nomads voilà. Et Poche, et Marvel Poche, et de l'autre, les formats un peu plus collector avec les intégrales. Mais du coup, il y a une vraie réduction, et je pense qu'il va y avoir une disparition progressive des formats trade paperback classiques. Parce que c'est, voilà, c'est du trop cher pour ce que c'est en plus.
Voilà, c'est-à-dire que le format qui reprend 6 épisodes, couverture cartonnée à 20 euros, je pense qu'il va avoir du mal. Même si, pour pouvoir faire une collection d'épisodes de série, il faut déjà que ces épisodes-là soient sortis. Avant. Bon, on verra bien, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on est maintenant, la seule chose qu'on peut dire, c'est que le format à kiosque, même s'il existe encore quelques trucs souples à 16 euros avec des centaines de pages, le format à kiosque est mort. Maintenant, il faudra voir un petit peu ce qui va se passer du côté donc des librairies. Et puis, la question, c'est toujours la même, hein, comment on fait son choix ?
Ok, toi, par exemple, c'est lequel ton format favori parmi tout ça ?
Moi, j'ai eu je suis passé par tous les formats, j'ai eu ma phase single, j'ai eu ma phase TPB, et maintenant, je suis dans ma phase omnibus, parce que je suis vieux maintenant et que j'ai des sous. Donc, je peux me permettre d'acheter des omnibus. Mais non, globalement, disons que moi, c'est très compliqué, puisque moi, je collectionne des comics depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, globalement, moi, je ne rachète pas quelque chose que j'ai déjà dans une édition ou dans une autre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, moi, je suis dans ma période omnibus, parce que j'aime bien avoir une intégrale de série tout de suite, plutôt que d'avoir à rechercher les vieux numéros ou les choses comme ça. Mais je pense que chaque lecteur peut trouver ce qui lui plaît. Vous êtes un jeune lecteur, allez sur les formats poche, ça coûte pas cher, ça peut vous permettre d'accrocher. Voilà, il y a un petit peu de tout, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses et pour toutes les envies. Voilà.
C'est ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on a du choix.
Et que c'est souvent de la qualité, il faut pas, c'est pas parce que c'est dans un format poche que des histoires débiles. Le but de notre émission, c'est aussi ça, c'est-à-dire de vous dire que les comics, quel que soit le format, il y a des très bonnes histoires comme dans tout. Les formats de BD et toutes les BD de tous les pays.
Voilà, vous voulez découvrir Watchmen, pas besoin de vous ruiner vu qu'il existe en poche.
Voilà.
Et vu que c'est un classique à découvrir, allez-y. Je crois qu'en plus, il coûte que 9,99€.
Oui, voilà, avoir Watchmen pour 9 euros, c'est quand même...
Oui, je pense qu'on n'aurait pas cru ça possible il y a 10 ans.
Non, Voilà.
Bon, bah, du coup, on va se laisser là-dessus. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la dernière émission de la saison, une émission qui sera consacrée au crossover. Donc, en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas,
quel que soit le format, lisez des comics.
Exactement. À dans 2 semaines.